Salutations Valérie Delattre, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, merci, c'est gentil. Vous qui êtes archéologue, archéo-anthropologue à l'Institut national de la recherche archéologique préventive.
C'est ça.
C'est drôle ça, de l'archéologie préventive.
Ça veut dire qu'on intervient en amont des travaux. Quand ils construisent un parking, le TGV, voilà, on intervient avant.
Ouais.
Donc, on fait de la prévention pour sauver le patrimoine.
Bon, l'archéologie du handicap, est-ce que c'est une discipline, disons, que vous inventez un peu malgré vous? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se spécialisent là-dedans?
Alors, en fait, c'est une discipline qui s'inscrit au sein d'une discipline scientifique beaucoup plus vaste qui s'appelle la paléoanthropologie, l'étude des maladies du passé. Et en fait, c'est une discipline qui est un petit peu pionnière. On n'est pas nombreux à s'intéresser à ce fait. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'y consacrer pleinement parce que j'ai rencontré un champion paralympique et qui m'a lancé un défi et qui m'a dit « Toi qui t'occupes des squelettes du passé, qui fais revivre les gens qui ont habité nos ancêtres, c'était comment leur vie ?» quand ils étaient handicapés, amputés, etc. Est-ce qu'on les sacrifiait? Est-ce qu'on les tuait? Et en fait, on ne savait pas.
Je veux juste m'assurer du bon titre. Ce que l'archéologie nous apprend sur l'histoire du handicap, c'est bien ça?
Voilà.
OK. Et je présume que c'est disponible encore ou...
Oui.
Bon.
Sur Amazon, sur Google, on peut trouver. Je viens d'écrire un petit ouvrage là-dessus pour montrer comment le passé peut éclairer nos comportements actuels. C'est-à-dire pas donner des leçons sur les bonnes pratiques, comment on fait pour inclure, faciliter l'accessibilité ou autre, mais comment il peut éclairer nos façons de faire. Et c'est tout à fait intéressant.
Vous savez s'il est disponible en format audio, par hasard?
Pas encore. Il est sorti il y a juste quelques mois,
ouais.
Et donc comme il a reçu un bon accueil, la maison d'édition envisage... De le faire et traduire en anglais et probablement de faire un format audio.
Ben, tant mieux. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous trouvez beaucoup d'ossements qui portent des traces de handicap ou ça dépend des époques?
Alors, ça dépend des époques. Alors, bien évidemment, toutes les époques où on a incinéré les défunts, on n'a pas du tout accès aux ossements et donc aux pathologies osseuses. Donc, une partie des Gaulois, une partie de l'âge du bronze nous est totalement illisible. En revanche, on a accès à toutes les lectures ostéologiques. Et bien évidemment, il faut imaginer qu'on est en phase directe avec les techniques chirurgicales, les techniques d'orthopédie. Et par exemple, un footballeur à l'heure actuelle qui se casse le tibia et le pironnet. Sa fracture, elle est réduite, il va être plâtré quelques mois, et après, il court comme un lapin.
C'est vrai.
Jusqu'au Moyen-Âge, on ne sait pas réduire une fracture, et donc l'os se ressoudait de façon anarchique, et c'était source de handicap, on pouvait boiter et être lourdement handicapé pour une simple fracture. Donc vous imaginez bien que nos cimetières et nos nécropoles sont remplis de gens qui sont bossus, qui ont des problèmes de vertèbres, qui boitent. Et
ils étaient majoritaires.
Le handicap est très et puis toutes les pathologies liées à l'âge, vous imaginez. Et donc le handicap est très présent dans les communautés du passé. C'est pas quelque chose qui est atypique et qu'on éloigne. On est tous handicapés en puissance parce qu'une chute de cheval, une chute d'escalier, et on pouvait risquer de boiter ou d'avoir un membre ankylosé, paralysé.
Donc le
handicap est très présent.
Donc, si l'on présume que c'était des sociétés qui réussissaient à s'adapter bon an, mal an, est-ce qu'il y a des preuves de cela?
Déjà, il y a toutes les opérations. Imaginez une trépanation. Trépaner un crâne au néolithique. Alors, maintenant, au XXIe siècle, on le fait toujours parce que le cerveau est comprimé contre l'os, etc. J'imagine qu'au néolithique, on devait penser qu'il y avait des esprits malfaisants dans la tête et qui donnaient des migraines. Eh bien, on trépanait au silex. Vous imaginez, il fallait une bonne pharmacopée ou connaître les champignons hallucinogènes pour le patient.
Ouais.
Les amputations. Au néolithique, 5000 ans avant notre ère, on ampute quelqu'un qui a la gangrène. Donc, ça montre bien l'intérêt que l'on porte aux membres de son groupe. On essaye de les sauver, on les aide pendant leur convalescence, et puis après, on peut les appareiller, par exemple. On retrouve des prothèses dans les tombes.
Mais moi
On
qui...
retrouve.
C'est drôle, je n'ai jamais pensé à ça, mais lorsqu'on regarde les monuments qui sont toujours
Oui.
debout, ou que
Oui.
ce soit des colisées, que ce soit... Est-ce que l'on
Oui.
voit, plutôt que des marches, qu'on travaillait avec des rampes d'accès, ou parce que justement, ils étaient si nombreux à avoir de la difficulté peut-être à monter des marches?
Alors, les temples égyptiens sont souvent équipés avec des rampes. Le temple d'Hatshepsout, ce ne sont que des rampes. Il y a très, très peu d'escaliers. Alors, je ne sais pas si ça a été construit dans l'intention de favoriser l'accessibilité. Je ne sais pas si en termes d'architecture des églises, des abbayes ou des châteaux, on travaillait avec de l'accessibilité. On devait surtout développer une grande entraide entre les hommes, une entraide de proximité dans la famille, dans la paroisse, dans le village. On se portait, on fabriquait des cannes, des espèces de corbeilles pour transporter quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, des premiers fauteuils roulants. Je pense qu'il y a une accessibilité humaine, à défaut d'être technique et matérielle, qui est beaucoup plus importante parce que autour de soi, on devait voir, nous on appelle ça des déglingués ou des corps différents, en grand nombre. Et regardez les tableaux dans les musées, regardez les chapiteaux des abbayes, les murs des temples et des tombeaux égyptiens, vous verrez plein de corps différents, avec des bosses, avec des membres atrophiés, avec des poliomyélites. Moi, j'ai fait une visite au Louvre récemment, les tableaux, les vases, les sculptures, les personnes différentes sont partout,
Mais
partout.
Valérie Delattre, comment savoir, et je sais que c'est votre métier, mais justement, aidez-nous à comprendre, comment
Oui.
savoir si, disons, l'os a été atrophié par un accident ou une malformation ou par le temps?
Alors, c'est très lisible sur l'os. On voit tout à fait la dégradation, par exemple, d'un corps dans un certain sédiment ou avec les racines des arbres, etc. La lecture sur la surface de l'os, elle est totalement différente. C'est vraiment l'apprentissage du métier d'archéologue. La dégradation du temps sur les matériaux, l'os est un matériau comme les autres, elle est extrêmement lisible. En revanche, des traces d'outils au silex ou des traces d'outils en métal sont extrêmement lisibles. Et pour le coup, moi, archéologue du funéraire, je fais le diagnostic qu'il y a quelque chose qui est anormal et après, je fais appel à un médecin qui peut faire, lui, le diagnostic rétrospectif et me donner un nom sur la pathologie. Et auquel cas, eh ben, on mutualise nos disciplines, on travaille en collectif et on arrive à se comporter comme le ferait un médecin à l'heure actuelle qui aurait un patient muet, hein, pour le coup, qui ne pourrait pas dire là où il a mal, mais c'est vraiment extrêmement lisible sur l'os. Évidemment, on n'a accès qu'au handicap qui laisse une trace sur l'os.
Visible, oui. Si l'on remarque plusieurs types d'ossements qui témoignent d'un handicap généralisé, est-ce que dans les outils, on a trouvé également des instruments qui pouvait servir à, disons, modifier ou aider des gens qui avaient des besoins particuliers ou c'est...
Ah ben bien sûr.
Oui, OK.
Alors on va trouver tous les instruments chirurgicaux déjà pour pouvoir travailler sur l'os. On a des trousses de médecin depuis l'Antiquité avec des scalpels, avec des scies, avec des traitants
Et ça,
qui nous montrent
on
que...
en a.
Ah oui, on en
Ah
a.
oui, OK.
Par exemple, des trousses de médecins de l'Antiquité et de chirurgiens, il y en a plein à Pompéi. Et on a encore les coffres en bois ou
Ouais.
en
Ah oui,
cuir
du
avec toute
bois.
l'instrumentation. Ah oui, c'est conservé au musée de Naples. On a Ambroise Paré, qui est un très grand orthopédiste de la fin du Moyen Âge en France, qui travaillait sur les champs de guerre, les champs de bataille. On a ces instruments. Donc tous ces instruments-là, on les connaît. Donc c'est les instruments des praticiens. Et puis on a dans les tombes les appareillages. Comme je vous disais, on a des cannes, on a des attelles, on a des prothèses, on a tout un tas c'est très très ingénieux, hein. C'est les gens qui inventent ça pour leurs proches, parce qu'il n'y a pas de catalogue d'orthopédistes
Ouais,
et de
mais...
prothésistes qui circulaient. Donc le forgeron, etc., celui qui fabriquait des armures, eh ben, était inventif et arrivait à fabriquer des appareillages compensatoires pour ceux qui étaient handicapés.
Un peu comme les exosquelettes aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'on a une idée, parce que bon, on parle d'une majorité, donc on peut présumer que Aujourd'hui, on qualifierait une société ouverte, alors que j'ose même pas dire ouverte, c'était presque la norme. Et là, tout à coup, lorsqu'on étudie certaines périodes de l'histoire, on se rend compte que la personne handicapée est reculée dans les cuisines, qu'elles n'ont plus d'emploi, qu'elles sont presque soit honteuses, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Mis à l'écart, on a l'impression que le siècle des Lumières, aux alentours du XVIIIe siècle, on a voulu bien faire, c'est-à-dire qu'on a regroupé les personnes handicapées, les aveugles entre eux, les sourds entre eux, les fous, entre guillemets, avec tout ce que ça recouvrait, ce terme de fou. Et en fait, en voulant bien faire, en les regroupant pour les éduquer, eh ben, on les a exclus du champ du quotidien. Et en fait, ils sont regroupés par pathologie et on ne les a plus dans la paroisse, dans la famille, dans la rue ou dans le village.
Mais en fait,
on a l'impression que ce tournant-là, de l'éducation, du regroupement, de la science, qui a fait que ce qui était banal, qui était empirique, pragmatique, eh ben c'est devenu quelque chose de compliqué, une prise en charge.
Mais en même
temps,
souvent, on entend, on va terminer là-dessus malheureusement, mais souvent on entend des gens qui démarrent ces institutions-là comme étant des gens qui ont été touchés parce qu'ils voyaient que ce soit des nécessiteux, des quêteux, des gens qui étaient vraiment désavantagés parce que la société les avait mis de côté déjà avant le...
Pas forcément.
Non?
Tout part d'un bon sentiment, c'est-à-dire aider son prochain, souvent sous couvert de la religion. Hein, quelle que soit la religion, l'aide et l'assistanat sont vraiment au cœur des préoccupations des pratiquants. Et puis, il y a eu la science. Quand on a mis dans les cases, quand on a mis les animaux, etc., qu'on a travaillé sur l'évolution, celui qui était différent, on ne savait pas trop dans quelle case le mettre.
Ouais.
Et puis après, il y a eu l'industrialisation. Il fallait se réaliser par le travail en usine. Quand on était handicapé, on était forcément à la marge. On devenait une bouche inutile.
Mmh.
On devient une bouche inutile quand... Quand le climat ne va pas, quand il y a une guerre, etc., etc. Et là, ça devient très compliqué pour les personnes handicapées. Et moi, je dirais que c'est vraiment les tournants 18e, 19e qui font que les choses qui sont banales, sur lesquelles on ne s'interroge pas, c'est empirique, eh bien, deviennent des problèmes, comme elles sont à l'heure actuelle.
Ouais.
Et puis, il y a eu les problèmes du 20e siècle, Action T4 avec les nazis, etc., où vraiment le handicap est devenu un point mort dans la société.
Oui, tout à fait. En tout cas,
c'est pour ça que le passé, il doit nous éclairer. Moi, j'aime bien ce mot d'éclairage, pas nous donner des leçons, mais nous dire, tiens, depuis Néandertal jusqu'à les Gaulois, les Gallo-Romains, puis dans tous les pays, parce que là, moi, je vous parle essentiellement d'Europe, mais il y a une archéologie du handicap en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, des tas de peuples qui ont su composer avec les personnes qui leur étaient différentes. Et donc, je trouve que c'est pas inintéressant de se dire, et nous, dans nos sociétés civilisées, comment on se comporte? Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que, toutes ces problématiques, elles font vraiment résonance avec nos comportements, et je trouve que c'est très, très riche d'idées.
Oui, et c'est intéressant. Réflexion. C'est intéressant de voir que parfois, de bonnes intentions arrivent à certains résultats plus ou moins positifs. En tout cas, moi, j'ai hâte de mettre l'oreille sur cette œuvre que l'archéologie nous apprend sur l'histoire du handicap. Valérie Delattre, merci beaucoup.
C'est gentil de m'avoir appelé. Je vous remercie. Bonne journée.